À la une ce soir, une élection sous tension au Brésil. L'ancien président Lula défie l'actuel chef de l'État Bolsonaro. 156 millions de Brésiliens appelés aux urnes, témoignages d'électeurs et analyse des enjeux de ce scrutin avec notre correspondant dans un instant. La contre-offensive ukrainienne ne faiblit pas. Kiev a repris la ville de Liman qui était aux mains de Moscou alors que la justice russe a validé les traités d'annexion. Annexion déplorée par le pape ce midi. Emmanuel Macron, lui, s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Le point sur la situation avec Alexandra Gégy. L'Ukraine qui sera au cœur de la rentrée parlementaire demain, les députés de retour dans l'hémicycle après deux mois de vacances, une rentrée qui s'annonce pour le moins tendue entre l'exécutif et les oppositions. Analyse dans un instant avec Alexandre Chauveau. L'insécurité frappe nos villes moyennes. Course poursuite à la Kalachnikov dans les rues de Grenoble ce matin. À Nantes, la mairie appelle à l'État à l'aide. Et puis, nous ferons le point sur les résultats sportifs du week-end. La Ligue 1 et la victoire de Toulouse 4-2 face à Montpellier. La Formule 1 et la victoire à Singapour de Sergio Pérez en Red Bull devant la Ferrari de Charles Leclerc. Et puis, quel temps pour demain? La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, très beau temps dans le sud, plus nuageux au nord, avec des brumes et des brouillards qui tardent par endroits à se dissiper. Mais dans l'ensemble, une journée lumineuse.
Merci Valérie. Météo complète à la fin du journal. 156 millions d'électeurs appelés aux urnes. L'élection présidentielle brésilienne a débuté ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 13h, heure française. 11 candidats, mais deux têtes d'affiche. L'ancien président Lula, candidat du Parti des Travailleurs, défie le chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro. Parole d'électeurs brésiliens à l'ouverture des bureaux de vote tout à l'heure.
Durant le gouvernement du Parti des Travailleurs, il y a eu une corruption majeure. Nous qui sommes de droite, nous voulons Bolsonaro, car c'est un militaire, et nous faisons confiance aux militaires.
Bolsonaro est spectaculaire. Les chiffres de l'économie ne pourraient pas être meilleurs, même en pleine pandémie. La faim n'existe pas au Brésil. Le Brésilien trouve toujours un moyen de survivre.
Je vais voter pour Lula, car il a beaucoup aidé les Noirs lorsqu'il était président. En particulier à travers la politique des quotas.
Je vais voter pour Lula car le pays a besoin d'un candidat qui s'occupe des personnes les plus démunies et se concentre sur la santé, l'éducation, la faim ou le logement.
Alors le résultat de ce scrutin est attendu vers 1h du matin, heure de Paris. Jean-Claude Gérès, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rio de Janeiro. Selon les derniers sondages, l'ancien chef de l'État Lula bénéficie d'une large avance devant Jair Bolsonaro, le président sortant.
Dans ce Brésil très polarisé, Lula caracole dans les sondages depuis plusieurs mois. Déjà président entre 2003 et 2011, il pourrait même l'emporter dès le premier tour. Sa cote de popularité s'appuie en grande partie sur les classes populaires très impactées par la crise économique qui voient en lui un sauveur. Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite, est crédité de 33 à 38% des intentions de vote. Il bénéficie de l'appui de l'agrobusiness, du lobby des armes et d'une large partie des fidèles évangéliques séduits par les valeurs Dieu, famille et patrie. Mais son bilan est très critiqué, sa gestion de la pandémie, la pauvreté qui touche 60% de la population, la destruction de l'Amazonie et l'image du Brésil à l'international sont autant de freins à sa réélection. Reste à savoir quelle sera la réaction de ses électeurs en cas de défaite. Le président sortant n'a cessé de remettre en question la fiabilité du vote électronique, pourtant considéré comme l'un des plus sûrs au monde.
Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 au Brésil. La France prise à partie au Burkina Faso. Après le coup d'État mené vendredi par le chef d'une junte militaire, le deuxième coup d'État en 8 mois. L'ambassade de France à Ouagadougou a été attaquée. Des manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment, mettant le feu à des barrières de protection et jetant des pierres à l'intérieur de l'ambassade. Des informations faisant état sur les réseaux sociaux d'une protection accordée par la France au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la junte destituée, ont participé à exciter la colère des manifestants pro-Traoré. Et on vient d'apprendre que Damiba vient d'accepter de démissionner. À 18 jours du lancement de la Coupe du Monde de football au Qatar, un drame s'est déroulé hier soir en Indonésie dans un stade situé à l'est de l'île de Java. 125 personnes sont décédées dans un mouvement de foule. Des milliers de supporters avaient envahi le terrain de football. De nombreuses victimes ont été piétinées. Une tragédie au-delà de l'imaginable, a réagi le président de la FIFA, Gianni Infantino. La guerre en Ukraine qui se poursuit sur le front de l'est du pays. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé ce dimanche que la ville de Liman était désormais totalement reprise. Cette ville se situe dans la région de Donetsk, annexée par la Russie. Bonsoir Alexandra Gégy.
Bonsoir.
Cela alors que cet après-midi, Emmanuel Macron s'est entretenu une nouvelle fois par téléphone avec le président ukrainien, leur premier échange téléphonique depuis l'annexion de ces quatre régions par la Russie.
Oui, et durant cette conversation, Emmanuel Macron a rappelé qu'il condamnait les annexions des quatre régions ukrainiennes. Il fait la promesse de travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre la Russie. Concernant l'arrestation du directeur de la centrale nucléaire de Zaporijjia, le président français condamne cette situation et soutient le président Zelensky. Ensemble, ils ont évoqué l'urgence à très court terme, de permettre une rotation du personnel de la centrale indispensable pour le bon fonctionnement et la sûreté des installations.
Mais sur le terrain, quelle est la situation ce soir ?
Eh bien, l'Ukraine a repris la ville de Liman, située dans un nœud ferroviaire crucial. Et pour Régis Le Sommier, grand reporter de guerre et spécialiste de la zone, les prochains jours s'avèrent décisifs.
La question, c'est voilà, les Ukrainiens sont-ils en mesure aujourd'hui, avec cette victoire, d'emporter l'Izichansk, c'est-à-dire de pousser vers l'Est et de conquérir une ville majeure, là, ça serait véritablement une victoire incontestable qui rebattrait les cartes de façon significative dans ce conflit.
De son côté, Volodymyr Zelensky assure qu'il ne reculera pas et que son armée reprendra d'autres villes dans la semaine à venir pour que le drapeau ukrainien flotte, je cite, bientôt partout.
Merci Alexandra Géji. La guerre en Ukraine qui sera au cœur de la rentrée parlementaire demain après-midi à l'Assemblée. Après 2 mois de vacances, les députés vont faire leur retour au Palais Bourbon. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Cette rentrée, ça annonce particulièrement tendue. En tout cas, les sujets ne manquent pas.
Oui, programme chargé avec au menu, entre autres, la réforme de l'assurance chômage, le vote du budget et d'ici la fin de l'année, la redoutée réforme des retraites. Le gouvernement va devoir trouver le point d'équilibre entre la volonté de réformer et le dialogue nécessaire dans une assemblée divisée en 3 blocs. Yael Braun-Pivet, invité tout à l'heure du 13h de France 2.
C'est cette méthode qui nous a permis au mois de juillet d'adopter un certain nombre de textes. Le dialogue au sein de l'Assemblée, le dialogue avec nos collègues sénateurs également. Il nous semble à tous que c'est la seule méthode qui vaille pour pouvoir réformer dans l'intérêt de nos concitoyens.
Le dialogue, oui, mais jusqu'à un certain point. Si la majorité devra s'appuyer sur les Républicains pour faire passer la plupart des textes, LR a d'ores et déjà indiqué qu'il ne voterait pas le budget, ce qui devrait contraindre le gouvernement à avoir recours au 49.3, article précieux de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote et qui pourrait également être utilisé pour la réforme des retraites. Les prochaines semaines promettent, quoi qu'il arrive, des débats pour le moins agités dans l'hémicycle.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Allez, on marque une courte pause et dans un instant, la suite de votre journal. Nous retournerons à Nantes. Les habitants manifestaient hier contre l'insécurité. Aujourd'hui, la municipalité socialiste en appelle au soutien de l'État.
Europe Soir Weekend.
Jacques Serret.
Europe 1, 18h09, 1 millier de personnes dans les rues pour manifester contre l'insécurité. C'était hier à Nantes, la 6e ville de France, une ville qui fait face à une montée de la violence et de la délinquance, comme dans de nombreuses autres villes moyennes partout sur le territoire. Un viol, un policier percuté par un scooter, une fusillade, c'était le bilan de la semaine dans cette ville gérée par une mairie socialiste. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, rencontrera mardi la maire Johanna Roland. Son adjoint délégué à la sécurité, Pascal Bollot, était l'invité tout à l'heure d'Europe Midi Week-end. Il en appelle à l'aide de l'État.
Il est très clair que les élus locaux n'ont pas la main sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est la pleine responsabilité de l'État. Alors nous, localement, on a une collaboration extrêmement pertinente et efficace avec la police nationale. On a notre réseau de vidéoprotection. On a notre police municipale qui augmente en permanence ses effectifs et qui intervient de plus en plus en police de proximité, en îlotage, mais il est très clair que le fond du problème, l'origine du problème, ce sont les trafics de stupéfiants, et là, ça relève clairement de la police judiciaire, de l'État, voire même parfois des relations internationales.
Pascal Bollot, adjoint à la mairie de Nantes, invité de Lénaïque Monnier dans Europe Midi Week-end tout à l'heure. Après Nantes, c'est Grenoble qui a été ce matin le théâtre d'une fusillade. Après l'attaque d'un bar situé dans le quartier Saint-Bruno, 4 individus ont été pourchassés par les forces de l'ordre à bord d'un véhicule roulant à vive allure. L'un d'eux a visé les policiers avec sa Kalachnikov. Les forces de l'ordre ont tiré à 3 reprises, le blessant à l'épaule. L'homme a été transféré à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il est déjà connu de la justice, rapporte le procureur, notamment pour vol, recel et détention de stupéfiants. Une enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices, pour, je cite, les violences commises par les policiers avec leurs armes de service. Le sport et le football, 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, direction le stade Louis II sur Europe 1. L'AS Monaco reçoit le FC Nantes. Vous suivez la rencontre, Frédéric Hélion, où en sommes-nous ?
Eh bien, c'est un match à sens unique. On est au tout début de cette seconde période. 49 minutes de jeu ici au stade Louis II. Et Monaco mène 3-0. Les Monégasques ont fait la différence dès le tout début de cette partie. Il y avait déjà 2-0 après 7 minutes de jeu. Tout part d'une touche rapide à la deuxième minute effectuée avec Wissam Ben Yedder qui est lancé en profondeur. Une première tentative stoppée par Alban Lafont, le portier nantais. Ça revient sur la tête de Brel Embolo, l'attaquant suisse de cette équipe monégasque, qui ouvre le score donc à la deuxième. Wissam Ben Yedder double la mise à la septième, bien servi par Embolo de la tête. Il se présente seul face au portier nantais. Un joli ballon piqué du pied gauche qui rentre avec l'aide du poteau. Et Wissam Ben Yedder s'est offert un doublé à la 28e. 3-0 donc pour Monaco face à Nantes alors qu'il reste encore 40 minutes.
Merci Frédéric. Tout à l'heure, Toulouse s'est imposé à domicile face à Montpellier. Le TFC l'a emporté 4 buts à 2. Ce soir, à 20h45, le Racing Club de Lens reçoit l'Olympique Lyonnais. Rencontre à suivre dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. En Formule 1, c'était le Grand Prix de Singapour. Aujourd'hui, 17e étape de la saison. Mais Christopher Filloque, pour voir Max Verstappen champion du monde, il faudra encore attendre.
Eh bien, vous avez tout compris, Jacques, puisqu'il fallait au moins une victoire du Néerlandais. C'est l'autre pilote de chez Red Bull, Sergio Perez, qui a remporté ce Grand Prix, sa deuxième victoire cette saison. Il a mené la course de bout en bout et devance les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. En revanche, une course que Max Verstappen va tenter de vite oublier, puisqu'il termine à la 7e place après bien des péripéties. Tout comme les pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, respectivement 9 et 14e. La bonne opération, en revanche, est à mettre au crédit des pilotes McLaren, avec une 4e place pour Lando Norris, une jolie 5e place pour Daniel Ricciardo. L'écurie McLaren qui reprend la 4e place au classement constructeur avec 4 points d'avance sur l'écurie française Alpine, puisque lors de cette course mouvementée avec plusieurs voitures de sécurité qui aura vu 7 abandons, Fernando Alonso et Esteban Ocon, les deux pilotes alpines, font partie de ces pilotes. Le français au micro de Canal+.
Je pense qu'on a, on a eu un souci moteur, donc c'est clair que c'est un week-end difficile pour les deux voitures ce week-end, mais on a une bonne chance de se rattraper sur le prochain où on aura une voiture compétitive.
Et le prochain Grand Prix, ce sera au Japon dès le week-end prochain avec peut-être cette fois-ci le sacre de Max Verstappen.
Merci Christopher. Enfin, elle va presque aussi vite qu'une Formule 1. Alpinista jument anglaise âgée de 5 ans remporté la 101e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe cet après-midi à l'hippodrome de Longchamp. Elisabeth II aurait été contente puisque c'est un jockey britannique qui l'a emmené vers la victoire, Luc Morris. Christophe Soumillon et Vadeni, son pur sang français, terminent deuxième. La météo, Valérie Darmon, les températures remontent.
Et beau surtout, avec des conditions anticycloniques qui s'installent sur la France pour la semaine. Le temps est sec, le vent se calme, le matin en particulier la grisaille, comme les bancs de brouillard sont fréquents sur la moitié nord et le sud-ouest, mais les éclaircies vont se développer dans l'après-midi, en particulier sur la moitié sud, tandis que les nuages bas sont souvent plus tenaces au nord. Sur le sud-est, le temps est très ensoleillé tout au long de la journée, au prix d'un mistral qui souffle à 70 km/h en pointe. Les minimales vont osciller entre 8 et 14, du nord c'est-à-dire Alsace et Lorraine, à l'Atlantique, de 11 à 17 sur les régions méditerranéennes. Les maximales sont en hausse, elles varient entre 18 et 22 sur la moitié nord, ainsi qu'Auvergne-Rhône-Alpes, et entre 23 et 27 au sud.
Merci Valérie. Alors on marque une courte pause et dans un instant, notre premier invité d'Europe Soir Week-end, Pierre-Alexandre Angla, député Renaissance, président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée. Il est de retour d'Ukraine, alors que demain les parlementaires feront leur retour dans l'hémicycle et débattront de la guerre et de ses conséquences pour la France. À tout de suite sur Europe 1.